Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous et good morning America. Nous voilà, les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du Monde nord-américaine après leur large victoire hier soir face à l'Ukraine 4-0. La France, toujours debout, 10 ans après les attentats du 13 novembre. Hommage et émotion hier soir à Paris. Et puis le frère d'un militant écologiste farouche opposant au trafic de drogue tué hier à Marseille en plein jour.
Les Bleus iront en Amérique du Nord l'été prochain.
Les joueurs de Didier Deschamps s'imposent 4-0 face à l'Ukraine. Ils valident leur billet pour la prochaine Coupe du Monde. Elle sera à vivre sur RMC Radio officielle de ce mondial du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le rêve d'une troisième étoile prend forme, on n'y est pas encore. Un moment à ne surtout pas banaliser, Valentin Jamin.
Oui, dans le stade des chansons, en référence à l'Amérique, destination des Bleus l'été prochain, une communion avec le public et de la fierté pour le défenseur Lucas Digne.
Ah, c'est particulier, c'est exceptionnel, je pense que pour toute la France et pour tous les joueurs aussi, c'est quelque chose de fabuleux. Et en plus, on gagne 4-0 avec la manière, donc c'est pas des choses communes non plus.
La France commence à avoir l'habitude, elle va participer à sa 16e grande compétition de suite, et même si hier le contenu a été poussif en première période, le double buteur Kylian Mbappé souligne la régularité française.
Ce qui est cool, c'est que les gens dans le stade banalise pas le fait d'aller en Coupe du Monde. On est conscient de ça, que c'est normal pour une équipe comme la mettre dans la Coupe du Monde, mais il faut pas banaliser parce que, comme j'ai dit, dans l'histoire de l'équipe de France, ça a pas toujours été le cas. Donc c'est toujours un plaisir et on va aller là-bas pour représenter les Français du mieux possible.
Didier Deschamps incarne cette réussite puisque le sélectionneur a toujours qualifié les Bleus sur les grands tournois depuis 2013.
J'ai profité, oui, évidemment. On a fait ce qu'il fallait, donc beaucoup de fierté pour l'ensemble du groupe, le staff qui est à mes côtés. Faut apprécier ces moments-là.
Il connaîtra ses adversaires pour son dernier mondial lors du tirage au sort le 5 décembre prochain.
Le Parc des Princes emprunte un lourd silence avant le début de la rencontre. Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Quelques heures auparavant, c'est au Jardin du Souvenir, à Paris, que la nation a commémoré cette triste soirée. Cérémonie forte en émotion devant 1500 personnes, des blessés, des rescapés, mais aussi familles de victimes et secouristes. Inès Egloul.
18h, les clochers de la capitale s'éveillent, se répondent, puis se taisent. Quelques secondes de silence, de souffle retenu, très vite balayé par l'orgue, par les notes aiguës du cœur qui s'envolent. Philippe Duperron, président de l'association de victimes 13-11-15, cite Robert Badinter. Oui, la vie est plus forte que la mort.
Mais les cicatrices demeurent indélébiles. Dieu qu'il nous manque.
Nick Alexander.
132 victimes, 132 noms scandés par des héros inconnus.
Armel Antisevic Pumia.
Et puis le rock, pour toujours. Au pupitre, Arthur Desnouveau, président de l'association Life for Paris.
Nous, victimes, nous n'avons rien d'autre à vous proposer qu'une exigence. Celle de vivre en société. Et merci à tous ceux qui nous aiment depuis 10 ans.
Chacun de vos pas, promet Emmanuel Macron, porte ce qui nous tient, l'esprit de résistance. Celle, par exemple, de ce cœur du 13, rescapé, proche de victimes, torse bombé. Vous ne marcherez jamais seul.
Et dans la foulée de cette cérémonie, Emmanuel Macron annonce la décoration de la Légion d'honneur à venir des policiers qui sont intervenus au Bataclan. C'était une réclamation des associations de victimes.
7h04 sur RMC. Boualem Sansal va plutôt bien.
Et il espère revenir en France vendredi ou samedi. Vendredi, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'il dit dans un entretien à l'écrivain Kamel Daoud, retranscrite dans Le Point. Gracié et libéré mercredi par l'Algérie après un an de détention, l'écrivain franco-algérien est actuellement soigné à Berlin. Il est 7h05. Vous écoutez RMC, un homme de 22 ans tué par balle en plein jour. Ça s'est passé hier à Marseille. Et la victime n'est autre que le frère d'Amine Kessassi, figure politique locale engagée depuis plusieurs années, Pierre Bazin, contre le trafic de stupéfiants.
Oui, il est environ 14h30 lorsqu'une moto se porte à la hauteur de la voiture de la victime. Le jeune homme de 20 ans est installé au volant, selon le parquet de Marseille, lorsque le passager de la moto ouvre le feu à plusieurs reprises sur la victime, qui va succomber à ses blessures. Plusieurs étuis de 9 mm sont prélevés sur la scène de crime. La victime, inconnue des services de police, est donc le frère d'Amine Kessassi, une figure politique locale de Marseille, qui s'est engagé depuis plusieurs années contre le trafic de drogue. Un combat qui fait suite à la mort en 2020 de son premier frère Brahim, tué lui dans un règlement de compte. Face à ce nouvel homicide, le parquet de Marseille a indiqué ouvrir une enquête pour assassinat en bande organisée.
Le déficit de la Sécu pourrait atteindre les 24 milliards d'euros. C'est bien plus que l'objectif fixé par le gouvernement à 17 milliards. Et plus que l'an dernier. Inquiétude ce matin du ministre du Travail dans les colonnes du Parisien, Jean-Pierre Farandou, dresse un premier bilan de l'examen du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Il appelle les parlementaires à la responsabilité. Les députés qui ont repris hier l'examen du projet de loi finance, les débats vont se poursuivre ce vendredi avant une pause ce week-end. Annonce surprise du gouvernement dans la soirée. Colère des oppositions, la gauche accuse le gouvernement de vouloir empêcher un vote. Il faut dire que les délais sont serrés. 1900 amendements doivent encore être étudiés avant le 23 novembre. Ce sera dimanche prochain à minuit. On termine avec un grand classique de la gastronomie française en perte de vitesse. Le fromage qui ne séduit plus vraiment les jeunes, notamment. Seuls 22% d'entre eux en consomment encore à la fin d'un repas. Les habitudes de consommation changent, nous dit l'interprofession du lait. Alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris l'AOP Festival. Et parmi les changements, Clara Gabillet, la manière de consommer le fromage davantage utilisé comme ingrédient dans les plats.
Il y a bien sûr les puristes.
J'aime le comté, le camembert.
Et ceux qui préfèrent le fromage fondu.
Ce soir, je vous fais un gratin avec du mozzarella râpé.
Soit tartiné, soit gratiné, mais jamais tout seul.
Un tiers du fromage consommé par les moins de 35 ans est mangé chaud dans des burgers, sur des pizzas, moins cher et plus pratique. Un virage qu'a bien cerné Juliane Lejaune dans son petit village du Pas-de-Calais.
Tout le travail se passe là-dedans. Et le rouleau, en fait, vient créer des boules de mozza.
À 27 ans, cette fromagère est l'une des seules productrices de mozzarella en France, le deuxième fromage le plus consommé après l'emmental râpé.
Je voulais être toute seule, en fait, sur le marché pour pas avoir de concurrence. Je touche plus de monde. Elle a un goût unique qu'on retrouve pas dans des mozzas industriels.
Selon elle, le monde agricole doit se mettre à la page, mais pour Hubert Dubien, les fromages traditionnels ont les armes pour résister. Il est le représentant national des appellations laitières.
On sait que ces fromages se cuisinent très très bien. C'est magnifique, hein. On fait vraiment des plats délicieux. On sait faire ça. Mais voilà, il faut leur donner envie.
Une tendance loin d'inquiéter le secteur. Près d'un Français sur deux mange du fromage tous les jours.
Apolline, le fromage plutôt à la coupe ou en gratin?
Ah, les deux. Je suis très, très, très fromage. Trop fromage. Passion fromage. C'était Thibaut Texer.